Place publique.
On apprenait cette semaine, plusieurs polices cantonales s'équipent de fusils d'assaut. C'est déjà le cas dans le Jura, mais aussi pour la police bernoise. L'objectif est de mieux faire face à la menace terroriste. Mais pour la conférence des commandants de police cantonale, ce ne sont plus seulement les forces spéciales qui doivent manier ces armes de longue distance, mais aussi les agents de patrouille, décryptage dans un instant. Totalement interdire les pesticides de synthèse dans nos assiettes, l'idée est défendue par une initiative fédérale lancée cette semaine par un comité neuchâtelois. Nous verrons dans quelle mesure l'objectif est réaliste pour l'agriculture dans nos régions et comment aussi assurer rendement et ménager l'environnement à l'avenir. C'est parti pour le Téléthon, 29e du nom. Cette récolte de fonds sert, on le rappelle, à soutenir les familles touchées en Suisse par les maladies génétiques rares. Nous ferons le point avec la coordinatrice romande de la manifestation et nous serons aussi en contact avec une patiente. Et cette émission donne aussi carte blanche à un humoriste pour mieux nous aider à digérer une actualité pas toujours marrante. Et ce soir, c'est Jérôme Moutet qui s'y colle. Merci à lui.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Les agents de police en patrouille doivent être aussi équipés de fusils d'assaut. Au vu de la menace terroriste, de telles armes longues ne doivent plus être uniquement destinées aux unités spéciales. C'est en tout cas la recommandation qu'on a pu entendre cette semaine de la part de la conférence des commandants des polices cantonales révélée par le magazine alémanique Zinforzin. Alors pour savoir dans quelle mesure c'est une réponse proportionnée à la menace qui guette la Suisse, on reçoit par téléphone Alexandre Vautravers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Vous êtes aussi professeur de relations internationales à l'Université de Genève et spécialiste notamment de la gestion des risques.
Alors, voilà, je suis expert en sécurité à l'Université de Genève, tout à fait.
Voilà. Avant de vous entendre sur ces fusils d'assaut, question qui nous préoccupe cette semaine, l'actualité. L'agence de police européenne Europol indique aujourd'hui que l'État islamique ne baisse surtout pas la garde. L'EI cherche à frapper encore et toujours l'Europe. Des djihadistes sont sur le territoire. On peut s'attendre à ce qu'ils frappent de toutes les manières possibles, y compris avec de nouveaux modes opératoires, précise Europol, jusqu'ici réservés à l'Irak ou à la Syrie, comme voiture piégée ou enlèvement. Est-ce que, selon vous, le risque d'attentat est plus élevé que jamais ?
Plus élevé que jamais, je n'irai pas dans ces détails-là, mais je dirais que le risque existe. Et pour s'en convaincre, il faut juste rappeler peut-être ce chiffre de 70 personnes qui ont quitté la Suisse à un moment ou à un autre pour aller, disons, combattre, mener le djihad en Syrie ou en Irak. Ce chiffre, ce rapport, par rapport à la population totale de la Suisse, il est le même qu'en France, il est le même qu'en Belgique. Donc il ne faut pas imaginer que la Suisse est une île et que la Suisse est dans une configuration tellement différente de ses voisins européens.
Et justement, pour mieux faire face à la menace terroriste, on apprenait cette semaine que plusieurs polices cantonales s'arment de fusils d'assaut, sachant que la Suisse, malgré tout, a été épargnée, et Dieu merci, par des attaques terroristes. Comment expliquer cette montée en puissance au niveau du choix des armes ?
Bon, je crois qu'il ne faut pas exagérer cette mesure, parce que ces armes longues, elles ont toujours existé dans les polices cantonales, mais elles ont existé au niveau des groupements d'intervention, c'est-à-dire les cellules, les groupes spécialisés dans la lutte contre le terrorisme ou les prises d'otages. Et la plupart des polices cantonales disposent donc déjà de certaines de ces armes. Le problème, il est le suivant, c'est que vous ne pouvez pas attendre dans une situation de crise ou d'otage ou une attaque à la Kalachnikov en pleine rue, dans une manifestation, vous ne pouvez pas attendre une heure, le temps qu'on mobilise ces membres du groupement d'intervention. Vous ne pouvez pas attendre qu'on envoie un hélicoptère pour les déplacer avec leur matériel, pour les mettre à pied d'œuvre. Vous ne pouvez pas attendre qu'on fasse tous les téléphones pour trouver des appuis dans le concordat roman entre les différentes polices cantonales. On arrive beaucoup, beaucoup trop tard. Donc ce dont il est question aujourd'hui, c'est de disposer de certaines de ces armes, entre guillemets, longues, qui utilisent des cartouches de fusil plutôt que des cartouches de pistolet, pour que les primo-intervenants, les premiers policiers sur les lieux, puissent déjà intervenir et, si j'ose dire, stabiliser la situation.
Qu'on comprenne bien, au niveau technique, est-ce qu'on parle des mêmes fusils que ceux que possède l'armée, par exemple le FAS 90 ? Quels sont les avantages de ces fusils d'assaut dont on parle par rapport à des mitraillettes ?
Bon, La mitraillette ou le pistolet mitrailleur, il dit bien son nom, il tire des cartouches de pistolet. Ce sont des cartouches de 9 mm. La portée efficace d'une cartouche de pistolet, c'est, disons, une vingtaine de mètres pour une arme de poing. Et puis pour les pistolets mitrailleurs, on peut prolonger cette distance d'engagement. C'est peut-être 50 ou 60 mètres. Au-delà, la trajectoire n'est plus suffisamment précise. Et donc, il faut une arme plus longue, il faut des cartouches de fusil. Ces cartouches sont de 5,6 mm et elles ont une portée de, disons, comprise, qui peut largement dépasser les 300 mètres.
On parle de ces fusils d'assaut, vous l'avez dit, rapidement mobilisables. Ça veut dire que des agents en patrouille devront être équipés de ces armes. Est-ce que c'est techniquement réalisable? Est-ce que ces armes sont faites pour être utilisées comme ça dans le quotidien des agents de police? Est-ce qu'elles sont assez maniables?
Alors écoutez, la plupart des forces militaires et certaines forces de gendarmerie, je pense en France, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense aux Pays-Bas, patrouillent dans les rues des capitales européennes avec des armes longues, avec des fusils longs, plus longs que le fusil d'assaut militaire suisse. Donc je ne vois pas où est le problème. La question, elle n'est pas là. Il ne s'agit pas d'équiper chaque policier, chaque ilotier d'une arme longue. Mais comme c'est déjà le cas avec les pistolets mitrailleurs aujourd'hui, je pense que certaines polices cantonales privilégieront le fait de disposer d'une de ces armes par voiture, par exemple, ou alors de les centraliser dans certains quartiers ou dans certains commissariats. Donc il ne s'agit pas du jour au lendemain d'équiper chaque membre des polices cantonales avec ces armes.
Donc on parle de menace terroriste, mais dans les faits, alors vous dites prévoir une arme dans une voiture, par exemple. Mais dans quelle situation la police doit veiller à avoir une arme de ce type avec elle? Et est-ce que de montrer cette arme dans des lieux sensibles, comme les gares ou dans des lieux de rassemblement, est-ce que c'est aussi un effet préventif recherché?
Comme je vous l'ai dit, la portée efficace des pistolets mitrailleurs actuels, c'est, disons, une cinquantaine de mètres, peut-être un petit peu plus. Donc, lorsque vous êtes dans une gare, lorsque vous êtes dans un lieu fermé, eh ben vous avez la réponse à votre question. Ces armes ne sont pas indispensables. Elles deviennent, par contre, indispensables lorsque vous avez de grandes surfaces ouvertes à couvrir, parce que, encore une fois, le pistolet mitrailleur ne peut pas être engagé à des distances comparable à un Kalachnikov ou à une arme de guerre qui pourrait être brandie, qui pourrait être utilisée par des terroristes.
Il n'y a pas seulement les terroristes qui s'arment toujours plus lourdement, il y a aussi le grand banditisme. La région en sait quelque chose avec ses attaques parfois violentes contre des banques ou des bancomates. C'était le cas notamment au bois, dans les Franches-Montagnes, avec des hommes qui tiennent la garde armés de Kalachnikov. Est-ce que ces fusils d'assaut sont aussi la bonne réponse contre ce genre d'attaque?
Bon, je crois qu'il faut démystifier deux, trois idées reçues. Moi, je ne connais personne qui dispose d'une carte ou d'un passeport avec un Q-code pour dire « moi, je suis membre de telle organisation criminelle ou de telle organisation terroriste ». Donc, je pense qu'il y a une certaine nébuleuse, il y a une certaine continuité entre ces organisations de nature criminelle. Et puis, il faut être clair, vous avez certaines organisations qui se spécialisent dans les vols d'armes, les vols de munitions ou d'explosifs, mais ce n'est pas forcément ces mêmes organisations qui vont les utiliser. Vous avez d'autres organisations qui se spécialisent dans le financement, avec le trafic de stupéfiants, par exemple, avec d'autres activités criminelles. Et puis, vous en avez des troisièmes, si j'ose dire, qui sont les commanditaires ou qui vont payer, qui vont acheter les services ou les armes ou les personnes ou les services de ces autres organisations criminelles. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à estomper les divergences que l'on veut bien faire entre petite criminalité, moyenne criminalité, les grands réseaux ou trafics ou organisations criminelles et puis les djihadistes. Malheureusement, il y a parfois des alliances objectives qui se font et des relations très commerciales, très monétarisées entre ces différents groupes criminels.
Toutes les polices cantonales n'ont pas la même doctrine par rapport à ces fusils d'assaut. Par exemple, la police neuchâteloise ne compte pas investir tout de suite. La question du surarmement est aussi posée. Alors je vous propose d'écouter le porte-parole de la police neuchâteloise, justement, Pierre-Louis Rochet.
Finalement, le policier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dispose déjà? D'un bâton tactique, il dispose déjà d'un spray au poivre, il dispose déjà d'une arme de poing, il dispose souvent d'une mitraillette rapidement à disposition. Finalement, s'il avait encore un fusil d'assaut, à un moment donné, il sera compliqué aux policiers. Mais j'utilise quelle arme ? Hein, c'est des questions qu'on se pose, effectivement.
Alexandre Vautravers, la question est posée. Qu'est-ce que vous répondez ?
Bon, en fait, c'est pas la question qui est posée parce qu'il s'agit pas d'équiper, comme je l'ai déjà dit, d'équiper chaque policier de 35 gadgets différents et puis encore un drone, pourquoi pas. C'est pas ça la question. La question, elle est de disposer d'un inventaire de ces armes de manière à ce qu'elles puissent, selon les circonstances, être amenées à pied d'œuvre dans les 20 minutes, dans les 30 ou les 40 minutes qui suivent un incident. Donc la question qui a été posée ou la réponse qui a été donnée n'est pas directement concordante avec cela.
Bon, la question qui se pose surtout, c'est la question du fédéralisme, c'est que tous les cantons, encore une fois, n'ont pas la même doctrine. Est-ce qu'il ne faudrait pas unifier, vu les bonnes raisons qui plaident pour ce fusil d'assaut que vous nous avez exposé, est-ce qu'il ne faudrait pas unifier les pratiques ?
Bon, je ne vais pas faire le débat du fédéralisme avec vous. Moi, j'entends plutôt, c'est le début de votre sujet, qu'il y a quand même une coordination entre les différents commandants des polices et les différents magistrats en charge des questions de justice et police sur ces thèmes. Donc on a plutôt un consensus au niveau suisse. Ce n'est pas tellement ça le problème. La réalité des défis ou des challenges de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, ça va être deux choses. Ça va être tout d'abord les règles d'engagement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va distribuer, à qui on va distribuer ces armes longues, quelles seront les règles pour l'engagement, pour le recours aux armes. Et là, il peut y avoir des variations d'un canton à l'autre parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes, l'expérience et puis les risques, les menaces ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est un premier défi et je pense que là, on a plutôt une force, plutôt un avantage avec le fédéralisme suisse. On peut coller de plus près aux réalités du terrain. Et puis la deuxième question très importante, c'est celle de l'instruction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir acheter ces armes et puis simplement les donner aux premiers policiers venus. Je pense qu'il faut être un petit peu plus sérieux que cela. Il va falloir un cycle de formation. Il va falloir exercer en fait ces interventions avec des armes longues. Ça, c'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps.
Alexandre Vautravers, merci beaucoup d'avoir été dans Place Publique pour analyser les enjeux de cette nouvelle politique des polices cantonales. Donc, ils vont s'équiper de fusils d'assaut pour répondre à l'évolution de la menace terroriste. Bonne soirée et à bientôt.
Bonne soirée. Merci à vous.
Il est temps de...
Place Publique.
Il est temps de retrouver François Comte pour l'essentiel des titres de la journée.
Bonsoir, les voleurs ne manquent pas d'inventivité dans le Jura. Des obstacles ont compliqué l'intervention des forces de l'ordre suite à une tentative d'effraction à la banque Raiffeisen de Miécourt la nuit dernière. Un arbre abattu à la sortie du village d'Al a poussé les agents de police et les gardes frontières à passer par la douane devant de l'Incourt, mais deux autres arbres bouchaient également le passage. Les forces de l'ordre ont donc dû emprunter un troisième itinéraire pour rejoindre le lieu de l'effraction. Les auteurs avaient toutefois déjà pris la fuite, mais sans être parvenus à pénétrer dans la banque. Une tronçonneuse a été retrouvée au pied d'un des arbres abattus. Un début d'incendie est survenu cet après-midi à l'établissement de détention de La Chaux-de-Fonds. Les pompiers sont intervenus pour un feu de matelas. Deux personnes ont été intoxiquées et conduites à l'hôpital. Il s'agit du pensionnaire de la cellule qui restera en observation et d'un gardien qui a effectué un simple contrôle. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. Les organisateurs de la fête fédérale de gymnastique à Bienne n'ont pas reçu l'avis de Forvent émis par Météo Suisse le 20 juin 2013. C'est ce que révèle SRF en se basant sur l'ordonnance de non-lieu du ministère public bernois. La tempête avait fait un mort et plus de 80 blessés lorsqu'une tente s'était effondrée sur le site. Les organisateurs recevaient les avis de danger via la centrale de la police en ville de Bienne. Le dernier avertissement qui annonçait des rafales jusqu'à 120 km/h n'aurait toutefois pas été transmis. L'ordonnance de non-lieu est entrée en force cet été. Aucune violation du devoir de prudence n'a été retenue contre le directeur de la Fête fédérale de gymnastique. Un appui fédéral pour des Jeux Olympiques 2026 en Suisse. Le Conseil fédéral est prêt à soutenir, y compris financièrement, une candidature suisse. Il a tenu aujourd'hui une première discussion sur le sujet et a décidé de mettre sur pied un groupe de travail interdépartemental. Cet organe, placé sous la direction de l'Office fédéral du sport, soutiendra les principaux responsables de la candidature helvétique lors des études de faisabilité. Début du procès dans l'affaire du garçon Soleroy, abusé en Allemagne. L'accusé, un Allemand de 35 ans, avait avoué avoir abusé sexuellement d'un garçon de 12 ans qui avait disparu de Günzgen dans le canton de Soleure. Son procès a démarré aujourd'hui à Düsseldorf. Le garçon n'était pas présent dans la salle d'audience. La défense et l'accusation ont demandé que le procès se déroule à huis clos. En automobilisme, il gagne le titre de champion du monde de Formule 1 et se retire de la compétition 5 jours plus tard. Nico Rosberg met fin à sa carrière à l'âge de 31 ans. Le pilote allemand de l'écurie Mercedes a annoncé aujourd'hui sa retraite sportive. Nico Rosberg souhaite écrire une nouvelle page de sa vie. Enfin météo, il faudra compter avec du brouillard demain. La brume devrait faire de la résistance et le soleil devrait se montrer peu présent au-dessus de 1200 mètres. Il fera frais demain, pas plus de 2 degrés dans l'après-midi. Le même type de temps est attendu dimanche. Très belle soirée.
Place publique. Et on continue notre soirée avec Place Publique. Ils veulent interdire les pesticides de synthèse dans nos assiettes et ils ont jusqu'au mois de mai 2018 pour récolter 100 000 signatures. Ils, ce sont des Neuchâtelois actifs dans le bio, mais aussi un professeur de l'Université de Neuchâtel. L'objectif, c'est d'interdire ces produits chimiques pour la transformation des produits agricoles, mais aussi pour l'entretien du paysage. L'initiative veut également bannir de Suisse les aliments qui contiennent des pesticides ou les aliments produits à l'aide de ces substances. Est-ce qu'il s'agit d'une idée réaliste et applicable dans nos régions? On en parle avec nos deux invités. Olivier Girardin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la Fondation Rurale Interjurassienne. Vous êtes le président aussi de l'Association de promotion de la stratégie qualité de l'agriculture et de la filière alimentaire suisse. Soyez le bienvenu.
Merci.
Et à vos côtés aussi, Philippe Berthold. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous laisse parler dans le micro, ça sera beaucoup plus simple de vous entendre. Philippe Berthold, vous êtes agriculteur à Port-en-Truy. Alors, vous l'avez entendu, bannir intégralement, complètement les pesticides de nos assiettes, ça veut dire aussi dans la production de nos aliments. Est-ce que vous, comme agriculteur, vous adhérez à cette idée?
Alors, écoutez, je deviens de plus en plus sceptique face aux propositions qui viennent de toutes parts, dans des milieux écologiques, du politique. Je m'explique. Il y a beaucoup d'exploitations qui sont parties en bio. Le marché bio a une possibilité de développement. Alors on se rend compte que pour encourager la production bio, il faut quand même payer un supplément de prix par rapport aux productions dites conventionnelles, dites pays.
Vous-même, vous êtes un producteur en pays, en production intégrée, ça veut dire que vous utilisez quand même un peu de pesticides, mais vous avez plein de normes qui font que vous ménagez et vos bêtes et les cultures.
Alors tout à fait. Moi j'ai suivi à la lettre les programmes de la PI, je voulais organiser ma production laitière exclusivement à base d'herbage, et j'en suis arrivé à la... sur 42 hectares, j'ai produit 6 hectares d'orge, tout le reste est en herbage, et j'ai utilisé en 2016 6 litres d'herbicides et 4 litres de fongicides. Donc sur 42 hectares, je pense que je respecte des normes, et ces normes, à un moment donné, on devient toujours plus exigeant et on voudrait toujours payer moins. Donc à un moment donné, ça ne sera plus possible. Et si on veut sauver la planète, il faudra qu'à un moment donné, on trouve un consensus dans ces modes de production pour que tout le monde y trouve son compte, et les producteurs également.
Olivier Girardin, on entend Philippe Berthold, il nous dit il y a déjà des normes quand même très serrées, y compris pour la production intégrée. Il nous donne le nombre de litres qu'il a utilisé en une année, qui paraît quand même relativement faible. Est-ce que de vouloir supprimer totalement les pesticides de la production de nos assiettes, ça vous semble réaliste quand on entend le témoignage de cet agriculteur ?
Réaliste. Oui, enfin, je pense, derrière la démarche, j'imagine aussi, c'est pour peut-être un peu provoquer aussi l'opinion. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, du côté de l'opinion publique, il y a de plus en plus de réserves par rapport à l'emploi de produits phytosanitaires, où je le rejoins. pour moi, un élément clé, c'est voilà, est-ce que le consommateur est prêt aussi à assumer, hein, puis à assumer, ça veut dire le problème, un problème général qu'on a, c'est qu'il faut savoir que le prix des denrées alimentaires est beaucoup trop bon marché actuellement, puis ne reflète pas les coûts de production. Donc si on renonce encore au produit, on peut renoncer au produit, la technique le permet, mais ça veut dire qu'il faut mettre un prix supplémentaire. Et puis c'était aussi le sens de la remarque de M. Berthold, est-ce qu'on est conséquent? Est-ce que le consommateur sera prêt à payer plus pour cette alimentation? Et puis après, il faut savoir aussi que finalement, on ne produit que le 50% de ce qu'on consomme. Le reste est importé. Comment on va faire pour vérifier les conditions de production de la production qui est importée? C'est extrêmement difficile aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut être raisonnable aussi dans ce qu'on veut mettre en place. Il y a de la place pour la production bio, il y a de la place pour la production intégrée. Il faut quand même voir, justement, qu'on ait une agriculture qui est de plus en plus raisonnée. Je suis bien placé aussi pour le savoir, aussi, justement, au niveau de l'école d'agriculture. On met un effort particulier aussi pour pas opposer non plus les types d'agriculture. Maintenant, ce qui est, pour moi, ce qui est salutaire, c'est que le consommateur se préoccupe de plus en plus de ce qu'il y a dans son assiette et comment c'est produit. Ça, c'est le côté positif.
Mais vous nous dites aussi, il n'est pas toujours cohérent, le consommateur, même s'il a des envies ou des attentes, il n'est pas toujours prêt à mettre le prix, c'est ça aussi?
Ah ben, il n'y a qu'à se regarder. Moi, je me regarde en tant que consommateur. Ben, il y a des jours, je suis prêt peut-être à mettre le prix, puis il y a d'autres jours, ben, on regarde peut-être plus ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Même d'être cohérent, ce n'est pas toujours évident, c'est un long travail. Et puis, je pense, ben, beaucoup de consommateurs sont aussi dans cette position-là.
Philippe Berthold, il y a des agriculteurs bio, 100% bio. Il y en a apparemment 12% dans le Jura actuellement. Le but, c'est d'augmenter un peu. Vous-même, vous êtes posé la question. Finalement, est-ce que vous êtes dit que ce ne serait pas un nouveau défi et un argument marketing aussi pour mieux vendre votre lait ou mieux vendre ce que vous produisez?
Alors, j'y ai pensé très sérieusement. Et si j'avais été 10 ans plus jeune, je pense que je serais parti en bio. Mais il faut se rendre compte qu'à mon âge, quand j'ai le cul plus haut que la tête une demi-heure de temps, c'est que je commence à avoir des vertiges. Donc j'ai renoncé et je vais, avec une pompe à dos, traiter mes rumex plutôt que de prendre une bêche pour arracher. Mais encore une fois, là, ça a un coût. Hein? Et puis quand on voit le marché bio de l'année passée, en 2015, Migros n'est pas content du marché bio pour l'huile de colza. En 2015, ils ont payé 220 francs. En 2016, cet automne, ils ont payé 150 francs. Donc, on ne peut pas toujours promettre aux gens, partez dans le bio, vous serez mieux payé, et puis, une année après, allez les sabrer au niveau du prix. On est en train de pousser les gens dans des impasses financières, parce qu'une fois que le bio, il ne faut pas... Le bio, c'est le bio... Quand vous êtes en bio, vous avez du colza, quand il est en fleur, si vous avez une attaque de méligète, c'est poutsé. Donc, en principe, la moyenne, je crois, Olivier me contradira, je crois que c'est 25%. Je crois qu'une année sur quatre, une récolte de colza bio disparaît sur l'ensemble des agriculteurs bio. Donc, à un moment donné, ça a un prix. Et puis, le consommateur, quand il signe une initiative... Quand il va voter, il faut qu'il soit conséquent, puis qu'il pense après coup. Parce que nous, les agriculteurs, on sait très bien ce qui fixe le prix. Hein, quand la distribution nous dit, en France, en Allemagne, le coût des produits est tant. Pour éviter le tourisme alimentaire, nous devons pratiquer les mêmes prix dans nos surfaces. Mais nous, il nous faut telle marge. Ensuite, les coopératives et les producteurs, débrouillez-vous avec le reste. Mais c'est facile de travailler comme ça.
Une vraie problématique économique derrière ce choix, hein, qui n'est pas qu'un choix de conviction, d'idéologie. Olivier Girardin, on l'entend, c'est pas simple. Il y a même une menace sur le rendement. Finalement, le bio, c'est pas un rendement assuré. Et donc, c'est des pertes financières, mais aussi de production, qui peuvent être gigantesques.
Oui, alors, bon, peut-être si on prend ça au niveau du bio, je pense, si effectivement on est prêt à assumer, mettre le prix et tout, il faut voir quand même qu'au niveau de la planète, j'entends la grande partie, une partie importante de la production est encore produite en bio. Potentiel, moi je pense, on peut nourrir la planète effectivement avec l'agroécologie, fermer les cycles sans problème. Ça, on arrive à le faire. Mais il faut revoir nos modes de consommation, nos modes de vie. Ça, il faut être prêt aussi à le faire.
Quand vous parlez d'agroécologie, c'est-à-dire sélectionner des espèces plus résistantes?
Non, alors oui, en partie, mais l'agroécologie, c'est pour... Enfin, on est dans des systèmes agricoles qui sont complexes. On utilise... C'est d'éviter des grandes surfaces monospécifiques. Il faut mélanger, il faut combiner, il faut avoir des rotations de cultures. Donc, on est sur une où le rôle de l'agriculteur est clé là-dedans. Mais ça veut dire plus de travail pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Mais effectivement, la technique, on arrive à ça, il y a le moyen de le faire. Et puis, mais par contre, c'est clair, c'est à l'encontre des grandes surfaces qu'on peut avoir, une production industrielle qui existe aussi au niveau mondial. Donc voilà, là, il faut savoir justement ce qu'on veut à ce niveau-là. Mais oui, la possibilité existe. Puis peut-être par rapport à ça, dans les modes de consommation, ce qu'on constate, on jette à peu près 30 à 40% de l'alimentation. Ben, il faut en jeter moins, puis celle qu'on achète, il faut mettre le prix juste. Et puis on va éviter un peu ces problèmes aussi.
Que dire des autres méthodes de ménager l'environnement quand on est un agriculteur ? Je vous pose la question, Philippe Berthold, vous qui participez la semaine prochaine à une table ronde qui suivra la diffusion du film Demain, un film qui a marqué beaucoup les esprits hein, parce qu'il donne des trucs assez concrets pour favoriser l'environnement. Quelle est votre pierre que vous mettez à l'édifice, à part faire très attention, comme vous l'avez dit au début, de ne pas utiliser trop d'herbicides ou de fongicides ?
Ben, je pense que c'est déjà un bel effort pour essayer de sauver la planète. Mais la première chose, si j'ai accepté quand on m'a invité à participer à ce débat, c'était pour rendre hommage à mes collègues et amis qui se sont donné la mort parce qu'ils n'arrivent plus à nouer les bouts. Ils sont asphyxiés financièrement, ils sont épuisés psychologiquement et physiquement, ils n'arrivent plus à voir le bout du tunnel. Le vrai problème, c'est que quand on fait des promesses pour des prix, à un moment donné, il faut les tenir. On a établi des réseaux écologiques. On nous parle déjà maintenant que ces primes aux réseaux écologiques pourraient baisser de 30%. Donc les agriculteurs, on se dit, bon, on va aller là-dedans, on veut faire une partie, on veut participer à ce programme de sauver la planète, enfin écologique du canton du Jura. Et puis, 3-4 ans après, on vient de nous dire, halte-top, ça ne veut pas aller. Alors je pense que je pense qu'à un moment donné, il faudra déjà un peu moins d'hypocrisie, il faudra penser un peu moins au fric, et puis savoir vraiment, vraiment, dans quelle direction on va aller politiquement. Le libéralisme, c'est une machine à tuer, et c'est une machine à polluer l'environnement. Les explications d'Olivier Girardin tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui. On a fait des conneries parce qu'on a tout voulu produire auprès des usines de transformation, que ce soit le lait, les betteraves, et maintenant on se rend compte qu'il y a des exploitations qui ne pourront plus produire de betteraves parce qu'ils ont un virus, et puis que la joie qui était qu'on ne voulait pas donner de contingent de betteraves parce qu'ils étaient trop loin, aujourd'hui on reconnaît qu'on peut donner des quotas de betteraves à la joie parce qu'à des autres places, c'est pollué. Donc il faudra revenir, on est plein dans l'erreur, à revenir à des structures agricoles beaucoup plus, au lieu de monoculture, de pluriculture, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, pluriculture pour justement combiner ces cohabitations de diverses espèces.
Merci Philippe Berthold. Pour conclure, Olivier Girardin, un dernier mot. On l'entend, les agriculteurs sont à cran, ils sont sous pression. Lancer des initiatives, vertueuses soient-elles, ça peut compliquer sacrément leur quotidien, vu que tout n'est pas en place, tout n'est pas cohérent. Il y a un problème de cohérence entre le système économique et puis les envies ou les attentes des consommateurs.
Alors, tout à fait, on constate qu'il y a des problèmes de cohérence. Par contre, le côté positif, si ça permet de lancer le débat, puis de s'interroger, puis de remettre en question, ça fait avancer la cause. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant là derrière. Et puis, moi, dans les signaux positifs, vous mentionnez le débat de Bain, ça c'est un exemple. On voit l'engouement que ça a provoqué. Donc il y a une volonté aussi de changement aussi de la part des consommateurs. Et puis si on arrive justement, il y a des modèles aussi d'agriculture contractuelle, hein, d'avoir un nouveau pacte entre consommateurs et producteurs, je pense qu'on pourrait commencer de trouver des solutions.
Merci en tout cas à tous les deux d'être venus ici dans Place Publique pour donner votre avis sur cette initiative et aussi nous peindre le tableau de la réalité de l'agriculture aujourd'hui, des contraintes. On rappelle que vous êtes là, non pas demain, samedi, mais jeudi prochain pour parler du film Demain. Voilà, j'espère que tout est clair. Ce sera à la grande salle de Courtemelon jeudi prochain à 19h30 avec bien sûr le film et ensuite une table ronde. On invite bien sûr tout un chacun intéressé par cette thématique à vous rejoindre. Bonne suite de soirée.
Place publique.
Alors il est temps de parler maintenant du Téléthon qui se tient aujourd'hui et demain. Et avant de retrouver nos invités, Jérôme Moutet, le Téléthon, Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Hey, bonsoir Gabriel, bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent, pour autant qu'il y en ait. Ça va Gabriel, vous êtes bien là ?
Vous en doutez que les gens nous écoutent, oh, après ce qu'on vient d'entendre ?
Non, je ne doute pas une seule seconde, vous êtes tellement
allez,
bon.
Allez, un peu d'optimisme.
Non, bon, vous savez, il y en a des mires, on paraît-il. Ça va, vous êtes bien ?
Je suis à merveille, il fait bon, il fait chaud.
Eh bien, profitez, ça ne va pas durer. Est-ce que ça, vous aussi, vous avez le cul plus haut que la tête, des fois comme M. Berthold tout à l'heure ?
Pas maintenant, mais ça risque peut-être d'arriver.
C'est vrai ? Attention à madame, attention. Bon, alors, le Téléthon, fait rire avec ça, Gabriel, hein, ok, moi je veux bien. Mais bon, vous voulez que je vous dise quoi ? Que c'est de la merde ? Eh bien sûr que non, évidemment. Ça sert à aider les familles suisses touchées par les maladies rares. En lisant cela, je me dis que les hockeyeurs et les footballeurs pourraient aussi toucher une partie des dons. Ou alors les fans de Fribourg-Gotteron, mais ça c'est plus une maladie, c'est un handicap lourd. Alors, en allant sur le site de la manifestation, j'ai vu que Frédéric François était parrain 2016 de l'émission TV du Téléthon. Frédéric François. Alors ça aussi, c'est une maladie rare, car quand on l'écoute chanter, on devient sourd tout de suite. C'est dingue, hein, non ? D'ailleurs, Gabriel, vous avez une tête à aimer Frédéric François, vous.
Mais j'adore.
Tu m'étonnes. Il y aura aussi Catherine Lara, fan aussi, je pense.
Évidemment.
Mais évidemment, Catherine Lara
et son violon ?
Oui, et son violon.
Électrique ?
Oui, mécanique. Catherine Lara et Frédéric François, ils ont bien fait de les inviter cette année, hein, car l'an prochain, on ne sait jamais. Bref, on les embrasse, évidemment, on les adore. Sinon, le Téléthon, c'est quoi ? C'est une nouvelle mascotte chaque année. Vous les avez, Gabriel, les mascottes ?
Elles sont toutes collectionnées dans nos radios.
Oui, bien sûr, c'est cela. On contrôlera. Aujourd'hui, ce week-end, c'est ?
C'est Justine et c'est une vache.
Bravo ! Ça, c'est beau, ce qui va faire plaisir à toutes les Justines. Hein. Une vache noire et blanche qui rigole. Alors, ces dernières années, il y a eu par exemple la marmotte Jazz, l'élan Jimmy et un tigre qui a un nom de travelot brésilien dormant dans une tente du bois de Boulogne, Joy. Voilà. Il y a aussi eu en 2007 un lapin. Et vous savez son nom ? Ce qui montre toute l'inventivité de l'équipe. Il se nomme Jeannot. Jeannot Lapin, ça vous parle ?
Complètement.
Un Jeannot Lapin.
C'est tout ce qu'on attend d'un lapin.
Oui, alors puisqu'ils ont pris ce nom-là pour une mascotte du Téléthon, je vais quand même vous lire le début de la fameuse histoire de Jeannot Lapin. Vous êtes prêts ? Alors, Jeannot Lapin naquit à l'âge de 7 ans. Ses parents, sa famille, ses amis, sachant qu'il aimait la peinture, l'envoyèrent en Savoie étudier la nature. Chemin faisant, Jeannot Lapin se perda. Une auberge, il croisa. Toc, toc, toc. « Bonjour, monsieur l'aubergiste, qu'avez-vous de bon à manger ?»« Eh bien, j'ai du pain, j'ai du vin, j'ai des œufs. »« Des œufs ? C'est bon, ça !» Il mangea et mangea tant qu'il en creva. Voilà l'histoire d'une mascotte du Téléthon. Il en creva. Jeannot Lapin, bravo. Et les dons, Gabriel, c'est comme le thon. Ça, c'est bon. Les cons, ça, c'est moins bon, même s'ils font des dons. Et si des tons cons font des bons dons, on accepte tout de même comme des cons. Mais faites vos dons, Gabriel.
Vous avez fait don. Oui, faites vos dons. Et comme on dit au casino.
Ben oui, comme un con, il faut le faire. En tout cas, ça sert. Et qui sait, l'an prochain, la mascotte, ce sera peut-être une truie prénommée Bertha. Elle sera grosse et peut-être même canon.
Place publique. Voilà, dans la région, de nombreuses manifestations ont lieu pour encourager la récolte de dons, comme vient de le dire Jérôme Moutet. On tentera de prendre peut-être des nouvelles, si on a le temps, tout à l'heure du côté de Malraix et de Lémont. C'est ce qu'on fera de toute façon à l'antenne demain. Reste que dès maintenant, vous pouvez faire un don. Un numéro pour cela, le 0800 850 860, ou sinon, vous envoyez un SMS avec Téléthon suivi du montant au 339, des informations que je donne très rapidement, mais que vous retrouvez sur téléthon.ch et en lien sur nos sites internet. Alors avec nous, pour en parler, la coordinatrice de Téléthon Suisse, Léna Fazela, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, le Téléthon existe en Suisse depuis bientôt 30 ans. Il a permis, par exemple, l'année dernière, de récolter plus de 2 millions de francs. Alors, rappelez-nous, où va cet argent et qu'est-ce qu'il permet de faire, surtout ?
Alors, l'argent est distribué à part plus ou moins égale à la recherche et au social. Donc, à la recherche, c'est l'objectif. Maintenant, on a pu cerner la maladie. Et puis maintenant, c'est de freiner son évolution. Pour l'aide sociale, c'est toute une aide quand une famille apprend un diagnostic, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Donc voilà, elle a besoin d'aide pour faire face à ça.
Quand vous parlez du social, vous parlez donc des associations qui viennent en aide aux malades ?
Exactement, oui. On a une association qui s'appelle Lazrim, qui est basée à Yverdon, qui est active au niveau suisse-romand.
Alors, il y a de nombreuses manifestations qui ont lieu en Suisse, des dizaines et des dizaines ont lieu dans le Jura, le Jura-Bernois et dans le canton de Neuchâtel. On le voit, c'est un formidable élan qui se joue chaque année pour favoriser des dons.
Oui, c'est juste. D'ailleurs, je profite de la parole qui m'est donnée pour les remercier très chaleureusement, parce qu'ils sont là par tous les temps. Donc, c'est plus de 5 000 bénévoles qui sont actifs ce week-end.
Et qui rivalisent de créativité. Il y a plusieurs types d'événements, de la vente de pluches, on en a parlé des pluches, mais il y a aussi de la soupe, des stands, etc.
Exactement, il y a des concerts de musique, des marchés de Noël, il y a pas mal de démonstrations aussi de pompiers. C'est l'occasion aux pompiers de montrer un peu leurs activités en profitant de l'événement Téléthon.
Avec nous également Catherine Migy de Fontenay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous-même atteinte d'une maladie rare, une forme de myopathie dégénérative. Vous avez 56 ans et oui. C'est seulement depuis peu que vous le savez. Racontez-nous un peu brièvement, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors effectivement, ça fait à peu près 3 ans maintenant et ça m'est tombé un petit peu comme ça. Ce ne sont pas des douleurs qui m'ont dérangée, mais plutôt une gêne dans le mouvement. Et je me suis rendu compte, je travaillais donc avec des enfants. Et quand j'allais me promener, eh bien, les tout-petits marchaient beaucoup plus vite que moi et j'avais du mal de les suivre. Et comme je dis, effectivement, pas de douleur, mais cette faiblesse musculaire. Donc, j'ai consulté rhumatologue, neurologue. Et pour finir, ça fait à peu près 2 ans maintenant que je suis suivie à Bâle, dans un service spécialisé. Et j'ai même également été consultée aussi au CHUV à Lausanne, proposée par l'association justement ASRIM. Et effectivement, c'est un petit peu compliqué parce que souvent, quand on parle de myopathie, pour les gens qui connaissaient un petit peu le nom, ils parlaient du Téléthon et ils voyaient par rapport aux enfants, donc les personnes très jeunes. Et donc moi, comme j'ai 56 ans, effectivement, ça ne rentrait pas du tout dans ces critères-là. Donc c'est une gêne dans le quotidien, à la maison, pour monter les escaliers, pour faire même les tâches, faire à manger, se déplacer dans la maison. Donc je marche avec une canne, j'ai toujours un appui, la table, un fauteuil, etc.
Vous ne pouvez plus vivre comme avant ?
Non, du tout.
Et qu'avez-vous envie d'adresser comme message à ceux qui entendent parler du Téléthon chaque année et qui hésitent encore ou peut-être qu'ils n'y pensent pas à faire un don, ils ne sont pas encore passés à l'acte, si j'ose dire ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors je leur dis que de toute façon, voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment et que le plus petit don est très important pour notamment la recherche génétique. Donc je pense que voilà, il faut effectivement bouger pour qu'on puisse un petit peu avancer dans toutes sortes de maladies, mais notamment justement avec ces maladies rares dont font partie les myopathies.
Et surtout voilà. Que c'est pas forcément reconnu par les assurances sociales. Léna Fazola, un mot oui. sur le dispositif qui est mis en place, c'est bien sûr des dons qui se font par téléphone, sur Internet, de toutes les manières possibles.
Voilà, exactement. Oui, alors on a sur notre site la possibilité, plusieurs possibilités de faire un don, faire des promesses de don par carte de crédit, par SMS. On a notre centrale qui attend vos appels au 0800 850 860. Ils sont là, ils sont prêts. Donc voilà, les occuper un peu. Donc je propose aux auditeurs de les appeler.
Et on espère qu'ils ne sauront plus comment ils s'appellent, qu'ils n'arrêteront pas de décrocher les téléphones. Merci mesdames d'avoir été avec nous. On
Merci
souhaite bien
vous.
Sûr plein succès pour ce Téléthon.
Merci.
Une bonne soirée. Et avant de se quitter, on va voir du côté de Malres qui se trame avec Marc Bigler. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous-même, vous mettez en place une manifestation, ça démarre demain et je crois que ça va bon sentir la soupe.
Exactement, ça commence un petit peu ce soir au niveau des préparatifs de la salle avec mes collègues, parce que pour faire quelque chose comme ça, on n'est pas tout seul, bien sûr. J'ai CSP Mourant, tous les pompiers de Malraix-des-Villars donnent un coup de main à ça, une bonne partie en tout cas, que je remercie déjà au passage. Une partie sont déjà à pied d'œuvre pour la salle et les légumes. Et demain, notre activité va commencer vers 11h. À 11h, on pourra venir à l'ouverture du Téléthon pour commencer à boire un verre ou l'autre, à réserver sa soupe, ainsi que de venir manger différentes choses, du style hot dog, hamburger. Et puis, bien sûr, la soupe au pois avec le traditionnel jambonneau.
Magnifique. Et tous les bénéficieront, bien entendu, à cette œuvre du Téléthon. Merci Marc Bigler et plein succès pour votre manifestation. Merci de nous avoir suivis pour Place Publique. C'est tout pour cette émission. N'oubliez pas le numéro du Téléthon, le 0800 850 860. Restez à l'écoute de vos radios car on vous tiendra au courant de l'évolution des dons et on vous encouragera à en faire, bien entendu. On vous souhaite une excellente soirée. On se dit déjà à la semaine prochaine.
Place Publique.